Alors, on m'a demandé de présenter un peu l'histoire de la Bible. C'est Jean-Jacques qui m'a demandé ça. Puis, quand tu m'avais approché la première fois, tu m'avais un peu parlé du canon, donc de la liste des livres de la Bible, et puis de l'histoire de la transmission de la Bible. Alors, c'est un sujet, c'est vrai, un peu historique. Mais il faut pas perdre de vue que, avant tout, la Bible, c'est effectivement le livre qui nous parle de Jésus-Christ et qui veut nous conduire à Dieu. Et je crois que j'espère que ce soir, même si je vais vous dire peut-être des choses un peu de l'histoire, qui n'est pas directement de l'histoire inspirée, mais que ça vous aidera aussi dans votre vie de foi à grandir dans votre foi et dans votre confiance en Dieu, le grand Dieu qui nous a donné cette Bible. Alors, juste, sur la page de titre, vous avez un peu trois étapes de l'histoire de la Bible. Tout à gauche, vous avez un papyrus qui date d'environ 200 après Jésus-Christ, donc un peu plus d'une centaine d'années après l'écriture de la Bible. On en a retrouvé bien quelques-uns, plus ou moins bien conservés. Ensuite, vous avez au milieu la première Bible imprimée, celle de Gutenberg. Et puis ensuite, vous avez une Bible d'aujourd'hui, comme on peut la voir aujourd'hui. Donc il y a différentes étapes dans l'histoire de la Bible. On m'a demandé de... Voilà, alors juste peut-être avant de commencer, quelques faits sur la Bible. On pourrait en avoir plein, hein, mais j'en ai mis quelques-uns ici. Vous savez tous qu'il y a 66 livres, qu'il y a une multitude d'auteurs, en tout cas 40, voire plus, et qu'elle a été écrite sur environ 1500 ans, 1200, 1500 ans, c'est difficile de savoir exactement. Elle a été écrite en hébreu pour ce qui est de l'Ancien Testament, avec quelques petites parties en araméen, et puis pour le Nouveau Testament en grec. C'est un livre très varié, avec des genres très différents. On y trouve des récits historiques, des lois, de la poésie, des paraboles, des lettres, etc. C'est d'ailleurs une des choses qui fait que c'est un livre assez facile à lire quelque part. Si moi j'ai essayé une fois de lire le Coran, je me suis assez vite arrêté. C'est très rébarbatif comme livre, comme ça en tout cas en français. La Bible c'est très varié et puis ça intéresse les petits-enfants, ça intéresse les adultes et puis les personnes âgées. Ça parle à tout le monde. Aujourd'hui, elle est traduite, alors en complet, dans environ 500 langues, 475, j'avais vu un chiffre comme ça. Et puis, pour le Nouveau Testament, on peut encore ajouter 1240 langues, autres langues. Et puis, il s'en vend à peu près 100 millions d'exemplaires par année. Et puis, ça, c'est tout, sans compter maintenant toute la diffusion qui a lieu aussi par Internet. Ça, on peut pas compter ça. En nombre d'exemplaires. Donc vous voyez, ça donne un peu l'importance de la Bible encore aujourd'hui, et aussi même si nos sociétés occidentales sont un peu en train de se déchristianiser, la Bible a marqué ces sociétés, et on en garde des traces un peu partout, y compris dans le langage qu'on utilise. Il y a des références à des récits bibliques que je suis sûr les gens savent pas quand ils disent, mais voilà, ça. C'est un livre qui a marqué nos sociétés aussi. Alors, c'est un livre qui a marqué nos sociétés, mais c'est un livre qui nous touche aussi personnellement. Et j'aimerais juste donner deux exemples de mon propre témoignage. Une expérience que j'avais eue avec la Bible il y a déjà longtemps, mais dont je me souviens très très bien. C'était un jour où j'étais pas en pleine forme. Je devais avoir un peu plus que 20 ans à l'époque, donc voilà, ça commence à dater. Et puis j'avais ouvert la Bible complètement par hasard, voilà. Et j'étais tombé sur le psaume 73, et puis j'avais lu, et ça m'avait fait extrêmement de bien à l'époque en lisant ce psaume. C'est un psaume qui commence par ce verset: En vérité, Dieu est bon pour Israël, pour les hommes au cœur pur. Et c'est vrai, ça c'est une affirmation comme ça, peut-être qui c'est difficile à la dire des fois quand on se sent pas bien, mais voilà, Asaph il commence son psaume comme ça: Dieu est bon pour Israël. Ça c'est quelque chose que je crois et auquel je m'attacher, enfin me tenir. Et puis il continue, pourtant j'avais presque perdu pied, un rien et je faisais un faux pas. Et puis il continue, il explique pourquoi il est en train de vivre une période difficile, c'est qu'il dit qu'il voit toute cette injustice qu'il y a dans le monde, ces gens qui sont mauvais et qui prospèrent, alors que les personnes qui essayent de suivre fidèlement la loi de Dieu connaissent des difficultés. Donc voilà quelque chose qui, une difficulté qui est dans sa vie et qui a presque fait perdre pied. Et il continue son psaume et tout à coup il voit la fin de ces hommes et puis il marque sa confiance en Dieu. Il dit, alors que j'avais le cœur aigri, les reins transpercés, moi stupide, ne comprenant rien, j'étais comme une bête, mais j'étais avec toi. Et ça avait été quelque chose de très fort pour moi. Voilà à quoi ce psalmiste se rattache. Il est avec Dieu. Il sent la présence de Dieu. Il sait que Dieu est avec lui. Car je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras selon tes vues. Tu me prendras derrière la gloire. Donc voilà l'espérance de ce psalmiste et voilà un texte qui date, 3000 ans. Non, pas tout à fait peut-être. Mais qui peut nous parler encore aujourd'hui. Un autre texte qui, alors ça c'est plus récent, qui m'a souvent parlé, mais qui m'a parlé de manière particulière au moment où il y a 2 ans, on a perdu, enfin ma femme a fait une fausse couche. Et puis c'est vrai que c'est un texte qui est tellement beau, qui parle de notre avenir, de notre espérance, d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle, dans Apocalypse 21. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Donc voilà un peu deux exemples de textes qui m'ont touché à un moment donné ou à un autre, et je suis sûr que si on faisait la liste ici des textes qui vous ont touché, on verrait des textes probablement différents, mais chacun probablement pourrait donner un texte qui à un moment donné ou à un autre l'a aidé dans sa vie de foi, lui a aidé dans sa vie tout court à continuer. Alors, quand on parle de l'histoire de la Bible, il me semble qu'il y avait plusieurs étapes. Là, j'en ai mis 5. D'abord, la révélation. Comment Dieu a parlé pour que la Bible soit écrite. Et avec ce thème-là, on peut parler d'inspiration. Comment Dieu a inspiré la Bible. L'inspiration, pour moi, c'est la base du canon, de la liste des livres de la Bible, parce que si on a reconnu l'autorité de certains livres, c'est parce qu'ils sont inspirés. On peut parler de transmission, parce que ces textes ont été écrits il y a longtemps, à un moment donné où il n'y avait pas de support informatique et même pas d'imprimerie, donc il fallait les copier à la main. Cette copie à la main, vous pouvez imaginer qu'il y a eu des erreurs qui se sont glissées dans les textes. C'est inévitable quand on copie un texte à la main, quand on est fatigué, quand on a une mauvaise lumière, quand c'est la 20e page que vous copiez de la journée, je sais pas. Il y a un moment donné où la fatigue fait que vous faites une erreur. On peut parler aussi de traduction parce que ces textes ont été écrits dans des langues que moi je ne comprends pas, que je pense que la plupart d'entre vous ne comprenez pas. Donc pour qu'on puisse avoir accès au texte, à la parole de Dieu, ben il a fallu que quelqu'un les traduise. Et puis on pourrait parler d'une autre étape encore qui est celle de l'interprétation, parce que c'est pas tout d'entendre quelque chose dans sa langue, encore faut-il le comprendre. Alors on va pas parler de toutes ces étapes, je pense que ça prendrait beaucoup trop de temps et puis ça dépasserait mes compétences. Donc j'ai décidé de plus ou moins me concentrer sur ce qu'il y a en gras ici, sur l'inspiration et sur la transmission. Mais j'ai pas pu m'empêcher, comme c'est une rencontre d'études bibliques du Nord Vaudois, de faire quelques commentaires quand même sur la révélation. Parce que Dieu est un Dieu qui se révèle. C'est pas un Dieu impersonnel. Il y a plusieurs versets qui nous montrent que Dieu désire entrer en communication avec les hommes. Par exemple, dans Jérémie 31, ils me connaîtront tous, petits et grands. Ou je leur ai fait connaître ton nom, Jean 17. Et quand on dit je leur ai fait connaître ton nom, il faut savoir que dans la culture de l'époque, le nom c'est beaucoup plus que le prénom ou le nom de famille, c'est la personne. Donc Jésus dit, j'ai fait connaître ta personne, donc la personne de Dieu, à ses disciples et à ceux qui l'ont suivi. Ou bien encore, nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc Dieu se révèle, il se révèle en tout premier par son Fils Jésus-Christ, mais nous, on y a accès par la parole de Dieu, la Bible. Dieu se révèle aussi de manière générale à tous les hommes et dans tous les temps. Et on a plusieurs versets qui parlent de cette révélation. Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Donc même sans la Bible, sans l'Écriture, Dieu se révèle aux hommes par la création. Et aussi dans Romains, depuis la création du monde, ses perfections invisibles sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence. Bien sûr, la révélation en Jésus-Christ, c'est celle qui est centrale. Jésus-Christ, c'est celui qui nous a fait connaître Dieu de manière la plus parfaite possible. Et voilà ce qui est dit, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a dévoilé. Et encore, après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé autrefois au Père dans les prophètes, donc dans tout l'Ancien Testament, Dieu nous a parlé à nous en un Fils. Alors là, j'ai juste mis une citation d'un auteur chrétien sur la révélation que Dieu a faite en Jésus-Christ. Le besoin d'une révélation verbale, donc par des paroles, apparaît, on ne peut plus clairement quand nous étudions la personne et l'œuvre de Christ. Sa vie et sa mort ont été la révélation de Dieu la plus claire et la plus complète qui ait jamais été faite ou qui aurait pu l'être. Pourtant, elle n'aurait jamais pu être comprise sans explication. Qui aurait pu deviner, sans qu'on le lui dise, que cet homme, Jésus, était Dieu incarné, qu'il avait créé le monde dans lequel il a été crucifié, qu'en mourant la mort d'un criminel, il ôtait les péchés de l'humanité, et que maintenant, bien que disparu à nos yeux, il vit à jamais pour amener les pécheurs repentants à son Père. Donc voilà quelqu'un qui dit que si on avait eu que la personne de Jésus-Christ, il était nécessaire aussi qu'il parle et que ses paroles soient conservées dans un livre pour que nous y ayons accès. Si on avait vu simplement Jésus-Christ sans explication, probablement qu'on n'aurait pas du tout compris ce qu'il est, le sens de sa mission. Donc là, j'ai trouvé sur Internet une petite image qui, juste pour donner une petite idée de l'histoire de l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, c'est plus simple. On sait que ça a été écrit au 1er siècle. Mais pour l'Ancien Testament, il a été composé, écrit pendant toute une période, pendant 1200, 1300 ans. Et voilà, on commence avec les livres du Pentateuque, les livres de Moïse, Genèse, Exode, etc. Ensuite, il y a ce que les Juifs appellent les premiers prophètes, c'est-à-dire les juges, Josué, juge, Samuel, roi, etc. Et puis après, il y a les livres poétiques qui sont pas notés ici, mais qui viennent un peu, avec David et Salomon, donc en haut là, David et Salomon, qui ont écrit les psaumes, et puis le Cantique des Cantiques, les Proverbes, etc. Et puis les prophètes, les grands, ce qu'on appelle des fois les grands prophètes et les petits prophètes, après. Et après, vous avez toute une période. Environ 400 ans avant Jésus-Christ, où il n'y a plus eu de livres bibliques, plus de prophètes aussi, enfin, qui ont apporté la parole de Dieu de la même manière que les précédents. Un temps de silence jusqu'au moment où Jésus est apparu et où il y a eu le Nouveau Testament. Donc voilà pour vous donner un peu une idée de comment s'est faite cette révélation sur une période très longue. Dieu a préparé son peuple à recevoir la révélation spéciale et particulière de Jésus-Christ. Maintenant, quand on parle de la Bible, on est obligé de parler d'inspiration et d'autorité. Alors l'inspiration, on peut la définir comme l'action du Saint-Esprit qui agit sur l'auteur sacré et lui permet d'exprimer d'une manière exacte ce que Dieu lui a révélé. Et on voit beaucoup d'exemples, plusieurs exemples en tout cas dans la Bible, qui montrent que la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand la Bible dit quelque chose, c'est Dieu qui le dit. Quand Dieu dit quelque chose dans la Bible, c'est l'Écriture qui le dit. Donc la Bible est la parole de Dieu. Par exemple, on voit ça dans Actes, l'Esprit Saint avait annoncé dans l'Écriture par la bouche de David. Donc on voit l'Esprit Saint, Dieu qui parle dans l'Écriture par un homme. Donc toutes ces choses-là sont mises ensemble. Et l'Écriture est vraiment la parole de Dieu. Encore quelques exemples. L'Écriture dit au Pharaon, je t'ai suscité pour montrer en toi ma puissance. Donc là, c'est l'Écriture qui parle. Mais si on regarde le texte qui correspond dans l'Ancien Testament, on voit, ainsi parle le Seigneur, je t'ai maintenu pour te faire voir ma force. Donc ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, c'est l'Écriture qui le dit dans le Nouveau Testament. On voit aussi que c'est une parole pleinement humaine. Le Seigneur dit, ce peuple ne s'approche de moi qu'en parole. Et puis, dans Matthieu, on voit, il, c'est-à-dire Ésaïe, dont il est question là, a dit, ce peuple m'honore des lèvres. Donc, la Bible est à la fois la parole de Dieu, mais une parole qui s'exprime par des hommes et par une parole humaine. Et puis, les deux textes qu'on cite très très régulièrement par rapport à l'inspiration, qui sont dans Timothée et dans Pierre, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Un deuxième texte. Aucune prophétie de l'écriture n'est affaire d'interprétation privée. En effet, ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie, mais c'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est bien cet aspect de porté par l'Esprit Saint qui est important dans l'inspiration. L'inspiration, elle touche toute la Bible, l'ensemble du texte inspiré. On parle d'inspiration plénière, donc que toute la Bible est inspirée, pas seulement des petits bouts. Et on a des exemples de ça qu'on peut voir au passage quand le Nouveau Testament cite des versets de l'Ancien Testament. Par exemple, aussi l'homme laisse-t-il son père et sa mère? Dans Genèse, c'est simplement celui qui écrit le livre de la Genèse qui parle, le narrateur. Et dans le Nouveau Testament, Jésus dit, c'est la parole de Dieu. Le Créateur a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc Jésus montre par là que l'ensemble de la Bible est inspiré, y compris ce qui n'est pas marqué explicitement comme parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Elle est verbale, c'est-à-dire que le choix des mots est inspiré. Les auteurs du Nouveau Testament s'appuient sur des détails du texte qui montrent que, et ils l'utilisent avec autorité, qui montrent qu'ils croyaient vraiment que le choix des mots dans l'Ancien Testament était inspiré. On voit ça à plusieurs reprises, mais par exemple ici, n'avez-vous pas lu « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Et là, Jésus s'appuie en fait sur le temps du verbe, simplement le « Je suis le Dieu d'Abraham. » Alors ça, c'est pour l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, on a quelques exemples. Le Nouveau Testament, il a été écrit presque tout en même temps, si on veut bien, et puis... Voilà. Alors, il y a quelques exemples quand même qui nous montrent que le Nouveau Testament est inspiré, que les auteurs du Nouveau Testament estimaient que ce qui était écrit était inspiré. C'est aussi, par exemple, c'est Pierre qui dit, c'est aussi ce qu'il, Paul, dit dans toutes ses lettres où il traite de ces sujets. Il s'y trouve des passages difficiles dont les gens ignares et sans formation tordent le sens, comme ils le font aussi des autres écritures pour leur perdition. C'est-à-dire qu'il considère les écrits de Paul qui ont été parmi les, enfin, qui ont été les premiers écrits du Nouveau Testament. Paul, c'est le premier qui a écrit des livres, les épîtres. Pierre considère ces épîtres-là comme les écritures. Et puis, dans Timothée, Paul écrit, l'écriture dit en effet, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain, et encore, l'ouvrier mérite son salaire. Or, l'ouvrier mérite son salaire, c'est une citation de l'évangile de Luc. Alors, l'inspiration, c'est un processus varié. C'est pas simplement toujours une dictée, c'est pas jamais une dictée. Donc, on voit que Dieu a utilisé plusieurs formes d'inspiration, enfin, plusieurs manières d'inspirer les auteurs, par exemple par la dictée. Le Seigneur me dit, prends un grand cylindre sceau, écrit dessus avec un burin ordinaire, etc. Ça se rapproche de la dictée que moi je faisais à l'école. Je crois qu'on en fait plus trop maintenant, mais voilà. Ça peut être un oracle, c'est-à-dire une parole de Dieu, l'Esprit du Seigneur parle par moi, ou bien simplement une chronique, Moïse qui note les stations d'où il partait, voici donc les étapes qu'il firent, ou une recherche historique, Luc a fait un travail d'historien avant d'écrire son évangile, il m'a paru bon, après m'être soigneusement informé, d'en écrire pour toi un récit ordonné. Voilà comme il introduit son évangile. Ou bien la copie d'un document officiel. Voici la copie de l'acte officiel. On trouve ça dans Esdras. Donc, différents modes d'inspiration. L'inspiration, c'est une garantie que la Bible est infaillible et qu'elle est inhérente. Infaillible signifie qu'il ne trompe pas, ni ne se trompe. Et puis, inhérente, qu'elle est exempte de toute fausseté ou de toute faute. C'est une conséquence logique de l'inspiration. Et on voit, par exemple, que Jésus et les apôtres ne mettent jamais en doute un récit de l'Ancien Testament. De même, dans l'histoire de l'Église, au début de l'histoire de l'Église, on croyait en l'inhérence de la Bible. J'ai simplement mis une citation d'un auteur, d'un historien de l'Église. Il va sans dire que les pères, donc les pères, c'est les premiers chrétiens, considéraient l'entièreté de la Bible comme inspirée. Leur vue générale était que l'écriture était non seulement exempte d'erreurs, mais ne contenait rien de superflu. Alors, infaillible et inhérente, ça ne veut pas dire que... il y a des degrés d'exactitude. Par exemple, si vous voulez calculer pi selon la Bible, ça donne 3, c'est pas tout à fait juste, mais... Finalement, c'est pas ce qu'on demande à la Bible de nous donner la centième virgule près de pi. Donc, il y a des degrés d'exactitude et il faut pas faire dire à la Bible ce que la sortir de son contexte, c'est lui faire dire des choses qu'elle n'a pas l'intention de dire. La Bible, par exemple, n'est pas un manuel de science moderne. Alors, la Bible, vu qu'elle est inspirée de Dieu, vu que Dieu est le créateur et le sauveur, qu'il est l'autorité suprême, eh bien la Bible doit faire autorité. Et Dieu exerce son autorité par sa parole. Et on voit quelques exemples dans la Bible. Vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre. Donc là, c'était la parole prêchée, proclamée. Mais c'est la parole qui a été transmise ensuite dans la Bible, le message qui a été transmis dans la Bible. Vous l'avez accueillie non comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu. Et puis on voit l'exemple des Béréens, qui accueillirent la parole avec une entière bonne volonté, et chaque jour ils examinaient les Écritures pour voir s'il en était bien ainsi. Alors, tout ça pour préparer un peu la discussion sur le canon. Donc le canon, c'est... Je vais donner quelques définitions. Le canon, c'est... En grec, c'est un terme qui veut dire la règle. Une règle qui sert pour mesurer. En fait, on a utilisé ce mot pour désigner la liste des livres qui fait autorité, qui sert à mesurer, si on veut bien, notre vie en matière de foi. Donc voilà, le canon, donc la liste des livres inspirés. Deutérocanonique, c'est un terme qu'on utilise aussi pour désigner des livres qui ne font pas partie du canon, en tout cas pas pour les protestants, ni les évangéliques. Deutéros, ça veut dire deuxième. Même les catholiques concèdent que les livres qu'ils reconnaissent comme canoniques, qui sont deutérocanoniques, c'est eux qui les appellent comme ça, ils ont été canonisés en second. Donc ils reconnaissent qu'il y a une différence avec les livres qui sont reconnus par tous les chrétiens. Il y a donc ça c'est une partie des livres non canoniques qui sont deutérocanoniques. Il y a d'autres qu'on appelle apocryphes, c'est-à-dire des apocryphes, c'est secrets cachés. Donc c'est des écrits qui sont pas reconnus comme divinement inspirés. Et les pseudépigraphes, c'est des écrits qui prétendent avoir été écrits par un homme célèbre, par exemple pour le Nouveau Testament, par Thomas. On a un évangile selon Thomas. Et on pense que c'est quelqu'un qui a utilisé ce nom-là pour donner de l'autorité à son livre. On a un pseudépigraphe, donc écrit à la, en utilisant le nom de quelqu'un. Alors, dans le canon, on peut parler du canon de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous, chrétiens, nous reconnaissons l'Ancien Testament tel que les Juifs le reconnaissent aussi. Il faut savoir que la Bible juive, qu'on appelle la Tanakh, était composée de trois grandes parties, la Torah, la loi, les Nébiïm, les prophètes, et les Ketuvim, les écrits. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les prophètes, en fait, les Juifs considèrent que les livres de Josué, Juge, Samuel, etc. sont des prophètes, en fait. Alors, on voit ça dans le Nouveau Testament, Jésus concevait l'Ancien Testament sous cette forme-là. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est une Bible à trois parties. Et les psaumes sont là parce que c'était le premier écrit et le plus important des écrits qui sont dans la catégorie écrit, donc écrit de sagesse. La Septante, qui est une version grecque de l'Ancien Testament, qui a été traduite avant le premier siècle, avait séparé la Bible en quatre parties, et c'est cette division qui nous est le plus familière. Le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. Donc l'ordre dans une Bible juive et dans une Bible telle qu'on l'a nous aujourd'hui, c'est l'ordre des livres n'est pas tout à fait le même, mais en fait c'est les mêmes livres qui sont dedans. Le canon de l'Ancien Testament était bien établi au premier siècle. C'est-à-dire qu'il y avait peu de discussions sur la plupart des livres. La plupart des livres étaient absolument reconnus comme inspirés. Il restait quelques petites discussions sur Ézéchiel, parce qu'on était un peu étonné des différences qu'il y avait entre le temple et le tabernacle. Le temple que décrit Ézéchiel et puis le tabernacle qu'on connaît dans la loi. Les proverbes, parce qu'il y a des versets qui ont des contradictions apparentes. L'Ecclésiaste, parce qu'on trouvait que c'était une sagesse un peu trop humaine. Le Cantique des Cantiques, avec des propos jugés trop érotiques. Et puis Esther, parce qu'il n'y a aucune mention du nom de Dieu dedans. Même si Esther, Dieu est fortement présent dans l'histoire. Il n'est simplement pas explicitement nommé. Alors le nombre des livres varie, mais il faut pas que ça fasse peur, parce qu'en fait ce sont les mêmes livres. Les protestants reconnaissent 39 livres dans l'Ancien Testament. La Bible hébraïque moderne en reconnaît 36, mais en fait c'est simplement parce que Samuel, Roi et Chronique sont mis comme un seul livre, donc voilà les trois qui font la différence. Jérôme, un auteur chrétien du 4e siècle, qui a traduit la Bible en latin, et il parle de 24 livres, mais lui c'est parce qu'il met tous les petits prophètes ensemble, et puis il colle Esdras et Néhémie. Puis Joseph, c'est un auteur juif du 1er siècle, lui il mettait encore Jérémie et Lamentation ensemble, et Juges et Ruth, et il parle de 22 livres. Donc on voit que c'est une preuve, disons, qu'au 1er siècle, au 4e siècle, on reconnaissait la Bible telle qu'on la connaît aujourd'hui, simplement on ne comptait pas tout à fait les livres de la même façon. Donc, comme je vous l'ai dit, le canon protestant, c'est le même que celui qui est utilisé par les Juifs. Les catholiques ajoutent quelques livres qui sont des livres qui ont été écrits en grec, Tobit, Judith, etc. Si vous êtes intéressé, de toute façon, vous pouvez les retrouver assez facilement. Et puis les orthodoxes ajoutent encore quelques petits livres à ces livres-là. Mais les catholiques, faut savoir que ils reconnaissent ces livres, enfin, depuis le concile de Trente. C'est là qu'officiellement ils ont inclus ces livres dans leur canon. Ça veut pas dire que c'est la première fois qu'on les mettait dans la Bible, hein. Je veux dire, ils ont eu une certaine importance dans l'histoire de l'Église, mais officiellement, ces livres ont été ajoutés au moment du Concile de Trente, donc après la Réforme au XVIe siècle. Alors, ces livres qui ont été ajoutés, c'est ce que les protestants ou les évangéliques ont tendance à appeler certains sont appelés apocryphes. Et le Talmud, en fait, dit c'est tous des livres qui ont été composés dans ces 400 ans ces 400 ans avant le Nouveau Testament, et que les Juifs appelaient comme un temps de silence où Dieu n'avait pas parlé. Et le Talmud dit, par exemple, à la mort d'Agée, Zacharie et Malachie, qui sont les derniers prophètes de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit a cessé en Israël. Ou bien, il mentionne un livre, le Siracide, l'auteur du Siracide, les livres de Ben Sira, et tous les livres qui ont été écrits depuis ne rendent pas les mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas canoniques. Donc ça, c'est des livres, le Siracide, par exemple, est l'un des livres que les catholiques ont dans leur Bible. Et puis Jésus, implicitement, confirme la limite du canon et exclut les 400 ans avant sa venue, quand il dit par exemple le meurtre de tous les innocents depuis celui d'Abel le juste jusqu'à celui de Zacharie fils de Baraki. Et en fait, Abel le juste, c'est le premier qui est mentionné dans la Bible, dans Genèse, et puis Zacharie, c'est pas le dernier chronologiquement, mais c'est le dernier qui apparaît dans le dernier livre de l'Ancien Testament juif. Donc c'est pas quand Jésus parle de ces deux justes, c'est un peu pour monter les deux extrémités, mais c'est pas forcément chronologique, c'est plutôt une question d'ordre dans le canon de l'Ancien Testament. Donc un peu une confirmation que Jésus qui confirme que Jésus pensait que l'Ancien Testament c'était bien celui qu'on a aujourd'hui. Aussi des preuves internes, par exemple les Maccabées, qui sont reconnus par les catholiques. Le deuxième livre des Maccabées se termine de cette façon-là, et puis vous en jugerez vous-même si vous pensez que c'est un livre qui se prétend inspiré. Je finirai mon ouvrage en cet endroit. Si la composition est bonne et réussie, c'est aussi ce que j'ai voulu. Si elle a peu de valeur et ne dépasse guère la médiocrité, c'est tout ce que j'ai pu faire. Et franchement, ça sent pas tellement les livres de la Bible qu'on a l'habitude de lire. Alors ces livres gardent certainement une valeur historique, on peut apprendre plein de choses dedans pour la période qui a précédé la venue de Jésus, mais je crois qu'on peut de manière assez confiante dire qu'ils ne font pas partie de la Bible. Pour le canon du Nouveau Testament, donc je vous ai lu tout à l'heure les textes qui montrent que le Nouveau Testament est inspiré, donc que même les auteurs du Nouveau Testament estiment que les livres qu'ils sont en train d'écrire sont des livres inspirés, qui font partie de l'Écriture, donc je ne vais pas vous relire ces textes. Mais la liste des livres a aussi mis un certain temps à s'établir, inévitablement, et puis les critères qui ont été utilisé pour reconnaître l'inspiration de ces livres, c'est d'abord l'autorité apostolique, c'est-à-dire qu'on estimait qu'un livre qu'on reconnaissait comme inspiré devait venir d'un apôtre ou avoir été composé sous la direction d'un apôtre. Par exemple, Marc a écrit son évangile sous la direction de Pierre. Et c'est à cause de cela que Marc a été reconnu comme inspiré. Une des raisons. Il devait être orthodoxe, c'est-à-dire qu'il ne devait pas contenir de doctrine qui soit contraire à ce qui avait déjà été reçu comme inspiré, ne contredit pas le reste des Écritures. Il devait être ancien, c'est-à-dire que ça devait être un livre qui date de la période des apôtres. Et puis, il devait avoir une reconnaissance universelle, c'est-à-dire que dans toutes les églises du monde, à l'époque du monde romain, ce livre devait être reconnu de manière assez universelle. C'est-à-dire, on prenait pas un livre qui était très apprécié dans une seule petite église du fin fond de je ne sais pas quelle région. Donc, voilà les critères qui ont été utilisés pour établir cette liste. Alors, très vite, cette liste a été, pour sa plus grande part, assez claire. Et en fait, il y a eu des discussions sur essentiellement deux livres importants. Le reste, c'est des livres plus courts. On peut comprendre qu'il y a eu des discussions un peu plus longtemps. Mais en Occident, par exemple, dans la partie occidentale de l'Empire romain, on a longtemps discuté sur les Hébreux. Et ça, c'est parce que on n'était pas sûr de l'origine apostolique d'Hébreux. Les Hébreux, c'est un livre qui est anonyme. Et pendant longtemps, en Occident, on a eu de la peine à reconnaître les Hébreux comme faisant partie du Nouveau Testament. D'autres livres, Jacques, 2 Pierre, 2, 3 Jean, Jude, aussi ont mis plus de temps à s'imposer. Et en Orient, de nouveau, Jacques, 2 Pierre, 2, 3 Jean, Jude aussi, mais l'autre grand livre qui a eu de la peine à s'imposer, c'est l'Apocalypse. Et on voit par exemple qu'Origène, qui est un auteur du 2e, 3e siècle, il disait que 22 des livres du Nouveau Testament étaient reconnus par tous, donc ne faisait absolument pas de discussion, et puis qu'il y en avait 7 ou 8 qui étaient incertains. Les grands manuscrits qu'on a retrouvés du 4e et du 5e siècle, ils contiennent la liste du Nouveau Testament actuel, et puis, par exemple, le Sinaiticus, il inclut entre autres, en plus, l'Épître de Barnabas et le Pasteur d'Hermas, qui étaient des livres qui étaient très prisés par l'Église. Et puis l'Alexandrinus, qui est un autre manuscrit qu'on a retrouvé, il contient un et deux Clément. Clément, c'était un évêque, un ancien de Rome, et puis Psaume de Salomon. Mais sur la plupart des livres, il n'y a eu absolument aucune discussion. Ils ont été reçus tout de suite, reconnus comme inspirés. Et puis on peut dire que dès le 5e siècle, il y a plus de l'Orient et l'Occident sont en accord et qu'on a le Nouveau Testament tel qu'on le connaît aujourd'hui sans discussion. Donc voilà pour le canon, la liste des livres de la Bible. On va parler maintenant de transmission. Alors là, juste quelques images. La carte que vous avez, montre des points où on a retrouvé des manuscrits très anciens et importants. Et comme vous le voyez, c'est des endroits, ces endroits-là sont où on a pu retrouver ce genre de manuscrits sont des endroits secs parce que ils étaient écrits sur un matériau qui se décompose. Donc, pour que ça se préserve bien, il fallait que la région soit sèche. On a retrouvé aussi des manuscrits très importants de l'Ancien Testament dans les grottes de Qumran que vous avez tout en haut à droite. Et puis en bas à droite aussi, c'est un monastère qui se trouve au pied du Sinaï où on a retrouvé des manuscrits importants de la Bible. Pour l'Ancien Testament, il a été rédigé entre 1500 et 400 avant Jésus-Christ, à peu près. On a aujourd'hui environ 700 manuscrits, mais des manuscrits assez tardifs qui datent du 11e siècle et plus tard. Donc, très très loin du temps où il a été écrit. Et jusqu'au 20e siècle, c'est un peu tous les manuscrits qu'on avait. C'était des manuscrits relativement récents. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les Juifs ont été extrêmement méticuleux dans leurs copies et que les variantes sont insignifiante dans l'Ancien Testament. Et puis, on a retrouvé des manuscrits de plus anciens, de traductions de l'Ancien Testament dans d'autres langues, et on voit qu'ils correspondent, que les manuscrits en hébreu correspondent très bien avec ces manuscrits, ces traductions plus anciennes. Donc, sur la photo, là, vous avez un exemple de manuscrit qui date du 11e siècle, et qui contient ce qu'on appelle le texte massorétique. Les massorètes, c'était des scribes, en fait. C'était les successeurs des scribes du Nouveau Testament. Il y a eu plusieurs écoles de scribes jusqu'aux massorètes, et les massorètes étaient extrêmement méticuleux. Ils comptaient les lettres, ils comptaient les mots, ils mettaient à la fin du livre quel mot était au milieu du livre, etc. Tout ça, c'est des façons de simplement contrôler que quand on a fait une copie de d'un texte, on s'est pas trompé dedans. Et puis ils mettaient des annotations dans les marges pour s'ils avaient des notes à faire. Donc un texte extrêmement bien conservé. Et au 20e siècle, on a trouvé en 1947 des manuscrits qui datent du 1er siècle, voire avant, dans les grottes de Qumran. Je pense que vous avez entendu ce genre de choses. Et là, on a pu confirmer que le texte avait été bien préservé. C'était des manuscrits qui étaient 1000 ans plus vieux, en tout cas 1000 ans plus vieux que ceux qu'on avait à l'époque. Là, vous avez juste deux images de certains de ces manuscrits. Alors, tout ce qu'on a retrouvé à Qumran n'était pas dans un état exceptionnel. Il y a des manuscrits qui sont extrêmement bien conservés, donc comme ce manuscrit pratiquement complet d'Ésaïe. Puis il y avait aussi un tas de fragments qu'il a fallu assembler, qu'on peut même, paraît-il, assembler sur la base de tests ADN, puisque le support c'est de la peau, hein, donc on peut même déterminer que certains fragments font partie du même parchemin que d'autres en faisant des tests comme ça. Donc un travail extrêmement compliqué et long à faire. Pour le Nouveau Testament, la situation est assez différente de l'Ancien Testament, parce qu'on a beaucoup, beaucoup plus de manuscrits. On en a presque trop. Et puis, le Nouveau Testament a peut-être été copié à la va-vite, hein. À l'époque, l'Église était persécutée, et on a cherché à brûler à un certain moment, au 3e siècle, au 4e siècle, on a essayé pendant les persécutions de brûler les textes sacrés. Donc il fallait vite copier, il fallait vite. Enfin, le christianisme s'est répandu de manière très très rapide. Donc voilà. Donc peut-être des manuscrits qui n'ont pas toujours été d'aussi bonne qualité que les manuscrits de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on a plus de 5600 manuscrits et le nombre augmente encore. Par exemple, on a 2 à 3 000 manuscrits des Évangiles, 800 des Épîtres de Paul, 700 des Actes, 325 de l'Apocalypse. Et puis en plus de ça, on a des lectionnaires, c'est-à-dire des textes, comment dire, c'est le texte de la Bible, mais pas dans l'ordre de l'Évangile. C'est pour la lecture tous les jours ou la lecture de l'Église. Donc c'est un assemblage de textes, mais qui contiennent le texte biblique. Et puis là, sur la gauche, vous avez un petit graphique qui montre un peu la répartition de ces manuscrits. Donc en commençant au 1er siècle, au 2e siècle. Alors là, il y en a très très peu, il n'y en a que quelques-uns. Et puis petit à petit, vous montez, évidemment, après, ça s'arrête aux environs du 15e siècle, parce qu'après, il y a eu l'invention de l'imprimerie, et puis on ne copiait plus les textes. Donc, au début, les manuscrits étaient écrits sur du papyrus, donc voilà, un matériau assez délicat. On en a environ une centaine aujourd'hui. Et puis après, on a écrit sur des parchemins, donc c'est ceux qui sont plutôt en jaune. D'abord, on écrivait en majuscule, ensuite en minuscule, et puis après, on a imprimé, tout simplement. Alors, le Nouveau Testament, si on regarde le nombre de textes le nombre de manuscrits qui sont disponibles, c'est nettement supérieur à beaucoup d'œuvres séculière. Par exemple, la guerre des Gaules, elle était composée à peu près en même temps que l'Ancien Testament, enfin 100 ans avant. On a une dizaine de bons manuscrits. On compare ça avec les 5600 de l'Ancien Testament. Et puis le plus ancien qu'on a date de 900 ans après l'écriture du livre, alors que pour le Nouveau Testament, on a des papyrus qu'on peut dater à peu près 15 à 30 ans après l'écriture du livre. Alors évidemment, c'est très rare, hein, et c'est des petits fragments comme celui-ci. C'est probablement on appelle le papyrus 52, c'est probablement le plus ancien qu'on connaisse aujourd'hui. Il date d'environ 110 à 125 après Jésus-Christ et contient un fragment de l'évangile de Jean. Il était découvert en Égypte. Alors c'est un tout petit bout de papyrus, mais l'importance cruciale de papyrus 52, qui ne préserve qu'un fragment de Jean 18, réside dans la date environ 125 qui lui est attribuée par les principaux papyrologues. Quoique environ 125 permette une marge d'erreur de 25 ans de part et d'autre, le consensus récent est de considérer 125 comme la limite supérieure, de sorte que P52 a dû être copié très tôt après que l'évangile de Jean a été elle-même écrite au début des années 90 après Jésus-Christ. Ça, c'est des spécialistes de la transmission du Nouveau Testament, les Anand, qui le disent. Donc voilà, pour un... Après, on a bien sûr des papyrus qui sont plus intéressants probablement pour la transmission du texte parce qu'ils sont beaucoup mieux conservés. Ça, c'est le papyrus 66, qui date de la fin du 2e siècle et qui contient aussi l'évangile de Jean. Et puis celui-ci se trouve à Genève, apparemment, dans une librairie et dans une bibliothèque privée. Alors, d'autres manuscrits qui ont été retrouvés et qui sont importants, par exemple le Sinaiticus, qui contient tout l'Ancien Testament en grec, la moitié seulement est conservée, mais qui contenait tout l'Ancien Testament en grec, et puis le Nouveau Testament au complet. Celui-ci date du 4e siècle, et puis il avait été retrouvé au milieu du 19e siècle par Tischendorf à Sainte-Catherine, donc au pied du Sinaï. Alors quand on transmettait quand on copiait ces manuscrits, là il y a juste un exemple, c'est un encrier qu'on a retrouvé à Qumran, et puis un banc super confortable aussi, que je sais pas d'où il vient. Donc voilà, c'était un banc de copistes. Quand on copie un texte, évidemment, c'est une tâche difficile, fatigante, surtout qu'on n'était pas équipé comme on l'est aujourd'hui. Et puis, il arrive qu'on fasse des erreurs en copiant. Et on peut dire qu'il y a toute une catégorie d'erreurs qui sont des erreurs involontaires, des variantes involontaires. Donc, quand il y a une erreur, ça donne deux. Après, on a des manuscrits qui ont une variante, d'autres qui ont une autre variante. On appelle ça des variantes. Et puis, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer une erreur. L'haplographie, c'est quand on omet la répétition d'un mot ou d'une lettre. C'est-à-dire qu'il y a deux lettres ou deux mots deux mots identiques qui sont assez proches l'un de l'autre, et puis quand on copie, on passe directement, on copie le premier mot, puis après on croit qu'on a copié déjà le deuxième, et puis on continue après. Donc après, ça donne tout un bout de la phrase qui manque. La dithographie, c'est le contraire, c'est qu'on répète deux fois un texte. Ou bien alors, la mémoire joue des tours, et puis quand on est en train de répéter, tout à coup, il y a le texte de l'évangile d'à côté qui nous revient en tête, et puis on le met sous la forme, le texte parallèle, on le met sous la forme de l'autre évangile. L'homoiotéleton, c'est quand, par exemple, il y a deux lignes qui se terminent avec le même mot, et puis on va sauter d'une ligne à l'autre sans le faire exprès. Ou bien on omet une ligne, on passe d'une ligne... Ou bien on confond des lettres qui se ressemblent, surtout que je vous montrerai dans le slide suivant, on faisait des abréviations pour certains mots qui apparaissaient souvent, et puis ça donne des fois des confusions. Ou bien alors on insérait dans le texte biblique une note qui avait été écrite en dessus, en dessous, etc. Par exemple, ici, le premier, alors faut pas vous arrêter au grec, etc., mais simplement voir que les deux choses là, ça se ressemble beaucoup. Et une c'est, la première c'est os, et puis l'autre c'est théos, c'est une abréviation du mot de Dieu. Puis, dans Timothée 3.16, il y a une confusion due à cette ressemblance. Alors on a il ou Dieu, mais ça change pas de manière essentielle le texte. Il ou Dieu s'est manifesté dans la chair. On peut avoir une confusion parce que en particulier quand on écrivait tout en majuscule et tout collé ensemble, des fois c'est difficile de faire la différence entre les lettres. Donc là vous avez, et en plus quand on dictait, on peut imaginer que certaines copies se faisaient, quelqu'un lisait le texte et puis il y avait plusieurs scribes qui écrivaient ce qu'ils entendaient. Alors des fois, il y a des ressemblances au niveau du son. On fait pas la différence et ça donne des mots différents. Et, mais là, c'est une variante qui peut être assez facilement éliminée parce qu'elle ne fait pas beaucoup de sens. Nous avons été pleins de douceur, dit l'apôtre Paul, ou bien nous sommes faits tout petits. Bon, probablement que la première est plus correcte. Et puis là, le troisième exemple, c'est un exemple où justement, où je vous disais quand deux lignes se terminent de la même façon, juste l'une en dessous de l'autre, eh bien vous aurez tendance peut-être à oublier cette partie de la phrase. Et puis ça donne, je ne te demande pas de les enlever du mauvais. Voilà, donc il manque une partie. Donc voilà des variantes involontaires qui peuvent s'être introduites dans certains manuscrits et qu'on essaie de corriger en regardant d'autres manuscrits où il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que des fois, des variantes vont générer d'autres variantes parce que quand le suivant va prendre votre manuscrit qui a cette erreur-là, il va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il va essayer peut-être, si c'est un mauvais script, de corriger. Donc, ça peut donner des variantes intentionnelles. Alors ça peut être des simples changements grammaticaux et orthographiques. On sait que les langues évoluent, donc il n'y a pas de mal à changer l'orthographe d'un texte quelque part. Ça peut être une harmonisation entre deux passages. On est un peu gêné par la différence de deux passages parallèles et on essaie de les harmoniser. Alors on va peut-être, s'il y a deux termes différents, on va les mettre ensemble et puis vous aurez les deux termes dans le texte alors qu'il n'y en avait peut-être qu'un à la base. Ou alors on va ajouter des mots par habitude. On a tendance à entendre scribe et pharisien, et puis dans un des textes il y a scribe, et puis on marque scribe et pharisien, parce qu'on a tellement l'habitude d'écrire ça comme ça. Ça peut être des clarifications qu'on a envie de donner. Alors, par exemple, il y a un passage qui cite deux prophètes différents, et qui dit, dans les évangiles, dans Marc 1, 2 à 3, et qui dit, Ésaïe le prophète dit, la première citation, la deuxième citation. Or, la deuxième citation n'est pas du prophète Ésaïe. Alors, il y a un scribe qui a probablement voulu corriger la chose et qui a dit, les prophètes disent. Ça peut être, comme je vous le disais, la combinaison de deux variantes. Par exemple, à la fin de l'évangile de Luc, louant et bénissant Dieu. En fait, dans l'original, probablement qu'il n'y avait que le terme bénissant Dieu. Mais bon, voilà. Tout ça, des petites variantes qui font pas une différence extrême à la fin. Et ça peut être des corrections théologiques. Alors ça, c'est les pires, mais les plus dangereuses. Parce qu'on aura tendance à dénaturer le texte. Alors, un des évangiles, enfin, l'évangile, dans l'évangile de Luc, parle de ses parents, donc des parents de Jésus. Et pour éviter qu'on dise que de mettre en péril la naissance virginale, il y a des copistes qui ont mis Joseph et Marie, ou bien Joseph et sa mère, donc la mère de Jésus, pour éviter des confusions théologiques. Ou bien alors on ajoute simplement un mot Amen à la fin de l'évangile de Luc. Là, il y a un exemple de variante qu'on pourrait dire intentionnelle, où on a changé l'ordre des mots, en conduisant en même temps deux autres malfaiteurs qu'on allait exécuter avec lui, c'est un des textes. On conduisait en même temps deux autres des malfaiteurs qu'on allait exécuter avec lui, pour éviter que ça sous-entende que Jésus était aussi un malfaiteur. Alors, voilà, on a tous ces manuscrits, et puis on récolte on les compare ensemble, on regarde toutes ces variantes, et après il faut essayer de voir laquelle est la plus probable. Et bon, bien sûr, dans la plupart des cas, on arrive à corriger le texte parce qu'on se rend compte qu'une des variantes, d'abord, elle apparaît peut-être que dans quelques manuscrits, ou bien elle est vraiment implausible. Et ce travail qui est un travail extrêmement compliqué parce qu'il faut extrêmement bien connaître les langues, il faut bien connaître les papyrus, les différents manuscrits, il y en a beaucoup. C'est un métier compliqué qui est de faire de la critique textuelle, c'est-à-dire d'essayer de rétablir le texte le plus fidèlement possible à ce qu'on pense être l'original. Alors, la première chose, c'est bien sûr, quand on fait de la critique textuelle, c'est de rassembler les différentes sources. Les sources pour l'Ancien Testament, on en a parlé, les manuscrits de la Mer Morte, les textes massorétiques. les anciennes versions, donc les traductions de l'Ancien Testament dans d'autres langues, les targums, qui sont en fait des commentaires en araméen, qui contiennent parfois le texte de la Bible. Et puis pour le Nouveau Testament, ben, les différents manuscrits, les 5400, 5600, les lectionnaires, et aussi les traductions anciennes. On a aussi pour le Nouveau Testament d'autres sources, par exemple comme les citations que les pères de l'Église font dans leurs écrits du texte du Nouveau Testament. Alors, une fois qu'on a collecté toutes les données des manuscrits, il faut évaluer la qualité du manuscrit. Il y a des manuscrits qui sont clairement inférieurs, qui ont beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Donc, on peut supposer que s'il y a beaucoup d'erreurs dedans à un endroit, probablement que s'il y a une variante, elle a peut-être moins de poids qu'un manuscrit qui est extrêmement soigné. Et puis, on essaye de retenir la variante qui explique le mieux l'origine des autres variantes. On retient en général la variante la plus courte. Comme je vous ai dit, on avait tendance des fois à combiner deux mots, par exemple. Donc, quand il y a une variante avec un seul mot, une variante avec deux mots similaires qui sont combinés, on va avoir tendance à retenir la variante la plus courte. Et puis, on s'aide aussi du style de l'auteur. Alors là, il faut connaître l'ensemble du livre, voir quels mots l'auteur utilise le plus souvent. Et peut-être ça peut nous aider à discriminer entre deux variantes différentes. On peut aussi utiliser la structure du texte. Si une variante casse la structure du texte, on peut peut-être l'éliminer comme ça. Voilà, donc après, ça c'était juste pour vous montrer ce à quoi ressemble un apparat critique, c'est-à-dire que en haut, vous avez le texte du Nouveau Testament, enfin de l'épître de l'Évangile de Jean, selon Jean. Et puis en dessous, vous avez à un endroit, vous avez une variante. Au verset 3, et puis vous avez en dessous de la ligne là les variantes et puis les différents manuscrits qui contiennent cette variante. Donc vous avez une liste de manuscrits, et puis certains, en lisant cette liste, peuvent se faire une idée de la qualité de la variante. Il y a deux textes assez longs qui sont pas très dont on n'est pas très sûr qu'ils fassent partie du Nouveau Testament, en tout cas du manuscrit original du Nouveau Testament. C'est dans Marc 16, la fin de l'évangile de Marc, qui est absente de la plupart des manuscrits anciens, que déjà certains auteurs, Eusèbe et Jérôme du 4e siècle, signalait comme ils avaient vu des manuscrits anciens qui ne la contenaient pas, et puis qui contient un vocabulaire assez inhabituel pour Marc, si on en juge par le reste de l'évangile. Donc voilà un texte peut-être qui n'était pas dans l'original. Un autre texte dans l'évangile de Jean, la femme adultère, il est aussi absent de nombreux anciens manuscrits. Il se trouve aussi à différentes places dans différents manuscrits. Et puis là aussi un style et un vocabulaire assez inhabituel pour Jean. Donc voilà deux textes, peut-être deux variantes assez importantes, parce qu'il y a un certain nombre de versets qui sont peut-être pas originales, mais ce genre de cas enfin, c'est les deux cas qu'on a dans le Nouveau Testament. Il y a des apparats critiques qui ressemblent à environ 1400 variantes dans le Nouveau Testament sur 7900 versets. C'est assez important, mais il faut savoir que la plupart de ces variantes, on peut en choisir une avec une certitude, enfin, pratiquement être 100% sûr que celle qu'on a retenue dans le texte est correcte. Et puis il y a une classification A, B, C, D en fonction du degré de certitude de ces variantes. Donc les D, qui sont les variantes les plus incertaines, sont extrêmement rares. Et puis A, B, C, voilà. Il y a beaucoup de A. Donc, même Kurt et Barbara Allan, qui disent dans un de leurs livres que la seule question est de savoir si les éditeurs, donc les éditeurs du texte grec du Nouveau Testament qu'on utilise habituellement pour faire les traductions, n'ont pas été un peu trop prudents dans l'application de cette classification. C'est-à-dire qu'ils estiment, c'est des spécialistes de la transmission du Nouveau Testament, ils estiment que le comité a été plutôt trop prudent, a mis une note B à des textes, à des variantes où ils auraient pu mettre une note A, etc. Donc voilà. Donc voilà pour la transmission du texte. Quand on a transmis, juste quelques commentaires par rapport à la traduction. Vous savez qu'il y a deux grandes familles de traduction. Soit on essaye à être le plus fidèle possible, le plus fidèle au mot. C'est une équivalence formelle. C'est une sorte de mot pour mot. On parle de traduction littérale. On essaye de rendre fidèlement la structure et la syntaxe du texte original. Et dans cette catégorie de traduction en français, on peut mettre la Darby, la Second, la Tob, la Bible de Jérusalem, etc. On a d'autres traductions qui sont des équivalences dynamiques, où on ne cherche pas à traduire le mot pour le mot, mais la pensée pour la pensée. On essaye de rendre les mots et expressions bibliques par des équivalents actuels. Et en français, on peut avoir la Français courant, la Bible Summer, etc. Alors, il y a différents risques par rapport à ces traductions, et dans un cas et dans l'autre. Le risque d'une traduction à équivalence formelle, donc littérale, c'est qu'un mot n'a de sens que dans son contexte. Par exemple, si on traduit systématiquement lef ou cardia, donc en hébreu, lef ou cardia en grec, qui veut dire cœur, si on traduit systématiquement comme ça et qu'on oublie le sens qu'avait le mot cœur à l'époque, le sens biblique de cœur, c'est l'homme intérieur. On risque en français de simplement penser aux sentiments, hein, parce que le cœur c'est devenu un peu l'équivalent des sentiments, la connotation qu'il a en français, alors que c'est un terme qui avait aussi un sens de volonté et d'intelligence, qui n'a plus tellement lieu d'être en français. Le risque des autres traductions à équivalence dynamique, c'est de mal comprendre l'intention de l'auteur et ensuite d'orienter la lecture de celui qui va lire la Bible. Et par exemple, on peut montrer un exemple dans 1 Corinthiens 15. Que cherchaient ceux qui se font baptiser pour les morts? Dans la Tob, une version littérale, la Summer traduit « Pourquoi certains se font-ils baptiser au péril de leur vie ?» Donc, voilà, c'est une façon de comprendre le texte, mais on a imposé cette façon de comprendre au lecteur. Le lecteur de la Tob, peut-être qu'il... On lui a pas imposé la compréhension du texte, mais il sait peut-être pas non plus ce que ça veut dire. Donc voilà. Prudence par rapport à ces deux, être averti par rapport à ces deux types de traductions. Chacune a ses forces et ses faiblesses, et puis il faut en être conscient. Le mieux, ça serait de lire bien sûr en grec, mais on sait tous pas le grec. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais donc la conclusion que j'aimerais laisser, c'est que pour moi, la Bible, on peut lui faire pleinement confiance. C'est vrai que l'histoire de la transmission montre qu'il y a eu des petits aléas. Et je dirais que ça nous pousse à un peu d'humilité. C'est-à-dire, on a un texte auquel on peut faire confiance, mais on va pas l'asséner. On n'est pas 100% sûr de tout. Et moi, j'aime bien ça, finalement, parce que Dieu est un Dieu qui nous respecte, qui respecte notre humanité, qui fait avec, et puis ça va pas l'empêcher de travailler en nous. D'autres textes paraissent beaucoup, qui prétendent être absolument purs. Donc, par exemple, j'ai mis là le Coran ou le Livre de Mormon. Ils prétendent que la transmission a été absolument parfaite du début à la fin. Je trouve que ça donne pas une image du même Dieu. C'est pas un Dieu qui respecte et qui travaille avec nous, qui ne s'impose pas, mais qui nous transforme. Et je crois que la Bible, même si le texte a eu quelques variantes peut-être, il est très très bien conservé. Ça, il faut le répéter. Mais c'est un texte qui peut nous transformer. Et dans l'état où il est. Il faut dire aussi qu'il a transformé des gens. Tout le monde n'a pas eu le texte en aussi bonne qualité que nous l'avons aujourd'hui. Pendant tout un tas de siècles, il y a eu plein de chrétiens qui n'avaient, pour ainsi dire, même pas accès au texte de la Bible. Donc, je crois qu'on peut être extrêmement reconnaissant aujourd'hui pour tout le travail qui a été fait et pour le texte qu'on a, et puis reconnaissant envers Dieu de nous avoir donné sa parole et de l'avoir préservé dans un état absolument impressionnant après autant de copies, de siècles de copies, etc. Donc voilà un peu, c'est un peu comme ça que je voulais conclure. Donc faire confiance à la Bible et surtout la laisser nous transformer, l'écouter. Je crois que c'est ça. On peut avoir un texte parfait, s'il nous transforme pas, ça sert pas à grand chose. C'est pas le but que Dieu cherche à avoir. Dieu cherche à nous transformer. Voilà, je vous remercie pour votre attention soutenue.